Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de deux grandes élections, plus ou moins importantes hein, selon ce que vous pensez de cette année. L'une est absolument imminente, il s'agit des élections européennes, donc pour remplir le Parlement européen, qui auront lieu donc le 9 juin. Donc c'est peut-être la dernière émission qu'on pourra diffuser avant le scrutin. Et l'autre élection dont je voudrais parler d'abord, c'est l'élection américaine. Voilà, pour rappeler un petit peu où on en est, j'avais fait un petit rappel, je crois que c'était début mars, quelque chose comme ça. Depuis, les sondages ont, les différentes estimations ont un peu évolué, et donc je voulais en reparler, peut-être parce que je pense que c'est sûrement la dernière fois qu'on en parlera, peut-être avant les vacances de cet été, donc il me semblait plutôt
pertinent.
Faut peut-être
parler de l'élection britannique aussi qui aura lieu le 4 juillet, ça va être intéressant.
Alors
ça,
oui, tout à fait, je comptais le faire, je pense, la semaine prochaine.
D'accord.
Pendant le mois de juin, parce qu'effectivement maintenant, jusque-là on savait pas encore quand elles allaient avoir lieu exactement, maintenant on a la date, et puis on a aussi quelques estimations des voix, pas des voix, mais des votes possibles, et effectivement la campagne, on Angleterre, au Royaume-Uni de manière générale, a commencé et ça va être une élection effectivement assez intéressante, je pense. Notamment, on va voir ce qui se passe à droite entre le Reform UK, le parti du Brexit, et les conservateurs. Est-ce que Reform UK va réussir à s'imposer dans quelques circonscriptions?
C'est un peu la grande question. C'est pas tellement ça la question. En Angleterre, c'est un système uninominal à un tour.
Ouais, winner takes all.
Le winner takes all, c'est-à-dire que vous votez une fois et puis c'est tout. Donc là, il est certain qu'après 14 ans, ils n'ont pas été très brillants, les conservateurs vont se faire battre. Mais la question essentielle, c'est s'il y a trois candidats partout,
ouais,
et s'ils sont numéro 2 ou numéro 3 partout,
ouais,
et ben, ils n'auront pas un élu.
Ouais,
et donc, on peut imaginer que le Parti conservateur britannique disparaissent complètement.
Oui, oui, tout à fait.
Ce qui serait quand même un léger changement, parce que c'est le parti le plus vieux du monde. Hein.
Effectivement.
Il est là depuis 1830, je crois, 1840.
Ce que semblent mesurer pour l'instant les instituts de sondage, c'est le fait que le Reform UK, le parti donc du Brexit, va faire un score qui, au niveau national, va être intéressant, mais n'aurait peut-être pas d'élu du tout. Alors, c'est
ça,
critiquable
c'est ce
d'un point de vue
mais on n'en sait rien du tout, ça.
Oui, pour l'instant, on ne sait pas. Surtout
comment
que
voulez-vous faire des sondages sur à 2% près, puisque c'est à peu près avec trois candidats, c'est pas possible quand même.
Ouais, bien sûr, et puis surtout qu'il y a énormément de circonscriptions au Royaume-Uni, donc c'est difficile.
Et puis
de,
tout le monde
de...
va bien se taire, surtout. Qu'est-ce que vous allez voter? Je sais pas trop.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'hésitations encore, effectivement.
Parce que Farage, il a à peu près le même pouvoir d'attraction sur la presse et sur les sondages que Marine Le Pen il y a quelques années, ou que Jean-Marie.
Ouais.
Donc voilà, c'est...
Et puis en plus de ça, aujourd'hui, Farage, il est toujours dans les parages, mais il n'a pas encore... en tout cas, il n'a pas repris la main techniquement sur son
parti.
Non,
mais il a dit qu'il ne le ferait pas, d'ailleurs, mais le type qui est en tête, qui est le patron du parti, il n'est pas mal. Et puis lui, il va être en arrière de la main. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout, donc c'est peut-être pas une bonne chose qu'il ne soit pas candidat, ni qu'il ne soit pas...
Peut-être.
Donc c'est pour assurer le parti plutôt que lui, quoi. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les élections... parce qu'il y a eu déjà dans l'histoire la disparition d'un certain nombre de grands partis, le Parti Socialiste français qui n'existe plus, le Parti Communiste qui n'existe plus, le Gaulliste qui n'existe plus. Donc maintenant, ce serait quand même intéressant de voir qu'en Angleterre, vous avez le Parti Conservateur qui est quand même le grand-père de tous les partis.
Ouais.
Comme la démocratie britannique est la mère et la grand-mère de toutes les démocraties, mais là, ça veut dire le grand-père, il risque de disparaître, quand même.
Effectivement. Et en plus de ça, ce qui est assez ironique, c'est qu'en 2019, lors des élections générales, ils avaient dégagé une des plus fortes majorités de leur histoire. Mmh. Et c'était une défaite absolument accablante pour justement les socialistes, les travaillistes.
Mais je crois pas que c'est les socialistes, hein, parce que je les vois pas. Enfin, j'en sais rien, je me trompe peut-être, mais je crois pas que les socialistes soient devenus populaires en Grande-Bretagne. Ils le sont pas du tout. C'est simplement qu'ils ont été tellement mauvais.
Ouais.
C'est un petit peu comme les gaullistes chez nous, quoi, si vous voulez. C'est, faut pas oublier que quand monsieur Chirac a dissous la Chambre sur les conseils avisés de Juppé, il contrôlait le Sénat, le Parlement, toutes les, je sais plus combien de régions sur en France, sur la totalité des régions, je sais pas combien des grandes villes, et qu'après un certain nombre de grandes manœuvres intelligentes comme ça, menés par des généraux de génie, ben, ils n'existent plus, quoi.
Effectivement, je pense pas que les Anglais deviennent travaillistes, soient en train de devenir travaillistes, même s'il y a un raz-de-marée électoral, s'il y a une mer rouge, justement, dans la chambre des représentants, enfin, au Parlement britannique.
Mais imaginez simplement qu'on est 33, 33 et 34.
Ouais.
Ben, si on fait 33, 33 et 34, celui qui aura 34 aura 100% des députés.
Oui.
Mais c'est complètement idiot. Ben, ouais. C'est le système britannique, c'est ainsi.
Ben, c'est ce qui, ça force un peu à avoir un système à deux partis. Alors après, il y a des exceptions un peu régionales qui permettent à des partis plus locaux.
Les libéraux ont été détruits par ce qui était le deuxième parti après les conservateurs. Ouais. Ben, ils ont été détruits par l'arrivée des travaillistes.
Ouais.
Ils sont complètement sortis.
Ouais. Et du coup, ben, on sait déjà à peu près quand même que la prochaine majorité sera très très probablement travailliste.
Mais j'en sais rien, moi.
Ce qui, oui.
C'est ce que vous disent tous les journalistes. Mais depuis quand j'écoute les journalistes, c'est longtemps, il y a longtemps que les journalistes, ils sont payés comme sont des gens, on le sait, qui sont. Il y a deux sortes de journalistes, hein, les journalistes honnêtes et ceux qui ont un boulot.
Ouais.
Donc c'est vrai en Angleterre comme partout. On l'a surtout vu avec l'affaire qui vient de sortir des files de Twitter qui montrent que les journalistes étaient tout jetés par la CIA ou le FBI.
C'est clair.
Donc moi, ce que pensent les journalistes, ce que pensent les sondages d'opinion, personnellement, j'en pense rien.
Ouais. Bah, je pense c'est faut pas les prendre trop au sérieux. Après, ça reste un indicateur plus ou moins pertinent. Parfois c'est bien calculé, parfois c'est complètement à côté de la plaque. Ça dépend un peu. Alors justement, je voudrais donc parler des élections américaines, rappeler un petit peu où on en est. Au niveau national, les intentions de vote, c'est autour de 41% pour Trump, plutôt autour de 39% pour Biden. Kennedy arrive quand même à un score plutôt à deux chiffres. Ce qui est vraiment pas mal du tout pour un candidat indépendant. Et puis après, il y a le reste qui se dispute entre deux autres candidats qui vont pas avoir vraiment d'influence particulière sur le résultat. Pendant ce temps, la marge de désapprobation de Joe Biden dépasse les 16%. Hein, c'est 56% de disapprove et 40% de approve. Et ensuite, au niveau des états clés, donc pour
je sais pas si ça dépasse. Si vous faites 60-40, c'est plutôt, il y a 50, la marge de 50%, elle est pas de 16%. Enfin, je vois ce que je veux dire.
C'est 56-40.
56-40, ben, ça fait 16 points, 16 sur 40, c'est pas 16%,
c'est 16% de 16 différence.
Mais ça veut dire qu'il y a à peu près 2 Américains sur 3 qui sont fâchés contre Biden.
Ah oui, c'est ça. Oui,
donc, c'est pour ça que j'ai du mal à réconcilier ça avec les 49-51.
Oui. Bah, en fait, effectivement, comment dire, tous ceux qui sont d'accord avec la manière dont Joe Biden mène le pays, si c'est lui qui mène le pays, je pense vont voter pour lui. Et après, il y a tout le reste. À mon avis, c'est ce qui explique autant le vote Kennedy, c'est que il y a pas mal de gens qui n'ont pas envie de voter Trump, mais qui n'ont pas non plus envie d'approuver ce que fait Joe Biden. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de place pour un candidat du tiers parti en quelque sorte. Donc voilà, c'est comme ça que j'interprète le truc. Après, bon, encore une fois, c'est des sondages, hein, c'est toujours parfois c'est un peu difficile à interpréter. Donc pour que les gens s'y retrouvent un petit peu, je rappelle quels sont les états clés, hein, les swing states possibles pour cette élection. Il s'agit du Nevada, de l'Arizona, du Wisconsin, du Michigan, de la Pennsylvanie, de la Géorgie, certains mettent aussi la Caroline du Nord. Bon, globalement, en Géorgie et Caroline du Nord, Trump est quand même très donné plutôt bien gagnant comme il faut. Donc on pourrait considérer que ce ne sont même pas des swing states. Enfin bon, ça reste quand même à vérifier parce que on sait jamais. Donc voilà, moi c'est ma liste en tout cas des swing states. Donc c'est à chaque fois dès que je veux suivre un peu où on en est au niveau de l'arithmétique électorale, je regarde ces états-là et puis après je regarde quelles sont les marges avec les sondages agrégés.
Dans les Français parlent pas parce qu'ils connaissent pas la Constitution américaine, ce qui est pas nouveau.
Ouais.
L'élément le plus important, c'est que si il n'y a pas de majorité dans 5 États, à ce moment-là, c'est avec Kennedy qui empêcherait une majorité dans 5 États. À ce moment-là, il n'y a pas un des deux candidats qui, sans doute, qui pourrait avoir 26 États. Et s'il n'y a pas un des candidats qui a 26 États pour être élu, eh bien, à ce moment-là, c'est la Chambre des représentants qui décide le président.
Ouais.
Donc, on est en train de dire qu'ils vont faire 46, 25, etc. Mais la question essentielle, c'est dans combien d'États Kennedy a-t-il pu s'inscrire Et dans combien de ces États va-t-il empêcher un des deux candidats d'avoir la majorité? Ça peut être un élément où ce serait la Chambre des représentants
actuelle
existante.
Ouais.
Qui pour l'instant, je crois, il y a 2 voix de majorité.
Oui, en faveur des Républicains.
En faveur des Républicains, donc ça risque d'être chaud.
Ouais. Après, encore faut-il que Kennedy arrive à s'imposer. Pour l'instant,
pas de s'imposer, mais... c'est qu'il n'y ait pas une majorité. C'est-à-dire que s'il y a dans 5 États où il y a des 2 candidats qui ne remportent pas la majorité des voix, donc à ce moment-là, 5 États ne peuvent à la limite pas voter. Et à ce moment-là, ça passe au Congrès.
Ouais, ça, c'est une possibilité, oui.
Évidemment, parce qu'il va peut-être faire 15 ou 16% dans un certain nombre d'États et à ce moment-là, pouf.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, comme j'ai dit, il est autour de 10, mais maintenant, il y a des États dans lesquels il est plutôt donné à 5-6 et d'autres dans lesquels il est donné à plutôt 13-14.
13-14, et 6, c'est 5 de ces États, et si du coup aucun des deux candidats ne réussit à gagner, des deux autres ne réussit à avoir 50% des voix, à ce moment-là, pouf, ça passe en gros.
Ouais.
Donc ça va être un truc qui peut durer.
Ouais, effectivement, on risque un peu comme la dernière fois de ne pas avoir les résultats à 6h du mat. Quoi.
Ouais, mais non, c'est surtout la dernière fois à 6h du mat, ils étaient tellement occupés à frauder dans tous les sens qu'ils n'avaient pas le temps de filer les résultats. Ouais,
C'était très frustrant.
C'était en Arizona, je crois, où il a fallu attendre 3 semaines ou un mois, je ne sais plus combien.
C'était en Arizona. En Géorgie aussi. Ouais, en Géorgie, il y a eu plusieurs bureaux de vote. On attendait en fait on avait les résultats de tout l'État, mais on attendait sur quelques comtés en particulier. J'en pouvais plus de regarder la carte toutes les heures, à chaque fois, on n'avait pas les résultats, c'était extrêmement frustrant.
Ouais.
Donc, voilà. Et alors, pour vous tenir un petit peu informé, justement, encore une fois, bon, vous aimez pas trop les sondages, mais moi, je regarde un peu quand même.
Ouais.
Donc, sur les états clés, dans l'Arizona, Trump est donné avec tous les sondages agrégés, et je regarde ça, pas des instituts en particulier, je regarde tous les sondages agrégés et je fais la moyenne. Dans l'Arizona, Trump est donné avec globalement 4 points d'avance. Dans le Nevada, c'est avec 5 points d'avance. Dans le Wisconsin, pour l'instant, on a une bonne égalité parfaite. Dans le Michigan, Trump est donné gagnant avec 1,1%, donc une marge assez faible. En Pennsylvanie, Trump est donné gagnant avec 2,3%. En Caroline du Nord, Trump est donné gagnant avec 5%. En Géorgie, Trump est donné gagnant avec 4%. Et à chaque fois, ces marges sont généralement un peu plus larges lorsqu'on ajoute Kennedy dans le calcul. D'ailleurs, en fait, il faudrait l'ajouter à chaque fois. Donc, par exemple, dans l'Arizona, ça passe de 4,1 points à 5,4 de marge pour Donald Trump. Donc voilà, en général, présence de Kennedy
avantage Trump. Il faut qu'il batte Biden, c'est probable,
ouais.
Mais il faut qu'il batte Biden et qu'il fasse 50%.
Oui. Alors après, en général, dans les États que j'ai cités, pas tous, hein, mais globalement, surtout Caroline du Nord, Géorgie, Arizona, Nevada, ils devraient faire la majorité. Après, en revanche, effectivement, pour le Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, c'est pas donné.
Si on a que 3, ça va.
Si on a que 3, ça va. Et après, bon, là, j'ai regardé que les États clés, j'ai pas regardé les autres États, mais normalement, du coup, dans les autres États, les marges pour chacun devraient être plus importantes, donc les 50% devraient être franchis. Mais effectivement, ça reste à surveiller parce que encore une fois, on peut vous donner à 52%. Si le jour du vote vous êtes à 49, du coup, effectivement,
c'est dans la marge d'erreur. La marge d'erreur pour des sondages de cette nature, c'est à peu près 2% dans chaque sens.
Oui, surtout que ça. Quand même, ça peut bouger assez vite parce que
plus on se rapproche de l'élection, plus ça bouge, bien sûr.
Ouais. C'est-à-dire que début mars, j'étais vraiment très confiant. Trump avait des grosses marges dans tous les États que j'avais cités, à peu près, hein, sauf encore une fois le Wisconsin et le Michigan. Et depuis au mois d'avril, Biden était remonté un peu partout et j'ai commencé à trembler un peu. Et là, depuis, Trump redessine une bonne marge. Donc voilà, ça bouge. Ça veut pas dire que ce sera le résultat. Encore une fois, les sondages, c'est pas des prévisions de résultats. C'est quels seraient.
Mais si c'était des prévisions de résultats, on n'aurait pas besoin de voter. Hein.
Ah oui, oui, effectivement. Et puis si c'était des prévisions de résultats, ils se tromperaient pas mal de fois parce que les sondages évoluent, ça change. Il y a des dynamiques électorales, il y a des campagnes. Et puis aussi, forcément, les gens ne répondent pas de la même manière à 6 mois de l'élection qu'à 2 semaines. Voilà, forcément, ça laisse place à aussi un petit peu plus de fantaisie. Plus vous êtes loin de l'élection, plus vous pouvez vous permettre de répondre des choses un peu fantaisistes. Un autre truc que j'aime bien regarder aussi, c'est les marchés de paris événementiels. Parce que les gens qui sont dans ces milieux-là sont, pour le coup, skin in the game.
Oui, parce qu'ils avaient de l'argent, oui.
Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez une plateforme comme Polymarket, qui est... Alors, ce genre de plateforme, c'est interdit en France, mais moi, je trouve ça assez rigolo.
Mais c'est permis à Londres, hein. Je veux dire, vous pouvez parier à Londres sur les élections françaises, si vous voulez.
Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et donc, bah, vous pouvez parier sur tout un tas d'événements, sur Polymarket, et bon, des événements vraiment importants, sur lesquels il y a beaucoup de paris, c'est les élections, parce que on a accès à tout un
et
tas
d'informations. Pourquoi c'est interdit en France?
Bah, je sais pas exactement. Peut-être qu'on considère que c'est trop dangereux, qu'on peut perdre trop d'argent, j'en sais rien. Ça doit être ça, j'imagine, l'explication.
Mais qu'est-ce qui leur donne le droit de m'interdire de risquer mon pognon comme je veux?
Et écoutez, je sais pas, parce que c'est pas interdit de jouer au loto, c'est pas interdit de jouer au paris sportif.
Tous ces gens-là, ils perdent mon pognon tous les jours, là, avec leur déficit à la cour, etc. Je vois pas en quoi ils ont, quel est leur droit qui m'interdire, et qu'est-ce qui leur donne le droit de m'interdire de perdre mon pognon? Ils le perdent, mon fric.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont? Je suis de mes enfants, je suis de mes petits-enfants.
Ils le perdent pour que vous n'ayez pas à le perdre. Ça, oui, c'est très important.
Non, mais ils perdent mon fric, je veux dire. La première des choses, c'est pour interdire les paris. Il ne faut pas interdire les paris. Il faut interdire le déficit constitutionnellement, quoi. Puis c'est tout. Ça, c'est que nous, on leur interdise quelque chose. Alors, parce qu'ils passent leur temps à nous interdire des trucs. Moi, ce qui me stéréotype en France, c'est le nombre de trucs qui sont interdits. Mais en fait.
Je suis tout à fait d'accord.
Qu'est-ce qui leur donne le droit d'interdire que j'aille parier sur le fait que Macron est pas un génie, quoi. Je m'apparais par un paillet. D'ailleurs, j'aurais pas une grosse cote, mais je vais pas gagner les 100 et des 1000 si tout le monde est d'accord avec moi. Mais, ouais.
Paris de l'année, la France va-t-elle terminer en déficit en 2024? Je pense que les cotes sont...
Les cotes, oui, là, si quelqu'un vous fait un prêt, vous prenez, parce que...
vous mettez toute la maison dessus, là. Je pense qu'il y a peu de chances de perdre, vraiment. C'est de l'argent gratuit. Et donc, sur cette plateforme, en fait, pour vous expliquer un peu, c'est une sorte de mix entre les marchés financiers et les paris sportifs, parce que contrairement aux paris sportifs, en fait, vous pouvez revendre votre position avant,
oui,
le terme, alors que quand vous faites le pari sportif, bah, vous pouvez pas vendre votre pari, en quelque sorte, vendre votre contrat.
Vous pouvez en racheter un autre, hein, l'inverse.
Oui, vous pouvez faire la position inverse, mais du coup, vous allez perdre de l'argent parce que...
Pas si vous avez, si les trucs se sont rapprochés.
Oui.
Vous pariez à 12 contre 1, puis ça devient 6 contre 1, paf, vous prenez pari dans l'autre sens, quoi.
Oui, effectivement. Oui, à ce moment-là, oui, vous pouvez prendre une autre position, mais vous pouvez pas vendre votre position initiale. Mais oui, tout à fait. Alors que là, vous pouvez vous dire, par exemple, la cote, j'en sais rien, de Michelle Obama, mais vous pensez pas forcément que Michelle Obama va remporter l'élection, mais vous dites que sa cote va augmenter. Donc là, par exemple, vous prenez une position sur Michelle Obama et puis ensuite vous la revendez quand vous pensez qu'elle est au plus haut. Donc là, ça fonctionne un peu comme les marchés financiers, mais sur des événements. Donc c'est une sorte de mix, je trouve, entre les marchés financiers et les paris sportifs. Et donc, pour faire une petite comparaison, le 18 avril dernier, Biden était à 45%, donc c'était 45% du volume de position était sur Biden président. Trump c'était à 43%, donc c'était quasiment à égalité, hein, vraiment une marge très négligeable. Et aujourd'hui, donc un petit peu plus d'un mois plus tard, ça a vraiment beaucoup évolué, puisque Trump est à 57% du volume de position et Biden 37%, donc avec une marge de 21 points en faveur de Trump, ce qui pour le coup est assez énorme. Donc ça veut dire que vraiment les gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur ce qu'ils pensent que tel ou tel événement va arriver ou pas, se positionnent beaucoup plus depuis un mois sur Trump que sur Biden. Et donc, vraiment, vous pouvez aller sur Polymarket, vous pouvez regarder les cotes en direct, elles s'ajustent automatiquement en fonction du volume des positions sur tel ou tel candidat et tel ou tel événement. Et vous pouvez voir quelles sont les plus grosses positions sur, bah, par exemple, sur Trump président. Et donc, bah, l'autre jour, j'avais regardé, il y avait un type qui avait mis quand même une somme à 6 chiffres en dollars sur je pense que Trump va être président. Donc voilà, il y a vraiment des gars qui sont skin in the game et qui mettent des sommes à 6 chiffres sur ce qu'ils pensent qu'il va arriver, quoi. Je trouve ça assez fascinant.
Oui, bah, ça dépend de combien de pognon ils ont, si vous voulez, c'est toujours pareil. Et puis, je sais, oui, mais c'est, chacun fait ce qu'il veut de son fric, hein.
Ouais. Et moi, si c'était autorisé en France, est-ce que vous prendriez
une
position?
Mon cher père disait toujours que quand vous prenez un pari, il y a toujours dans chaque pari, un idiot et un type qui sait. Donc, ouais. comme je ne sais, je ne suis pas idiot et je ne sais pas, c'est pas le genre de truc que je vais faire. Mais par contre, j'avais envie de parier. Je vous dis, alors là, vous gênez pas, ça, moi, c'est pas moi qui vais vous interdire. Vous avez remarqué qu'il a des lunettes, là
Effectivement, j'ai des lunettes. Bah, c'est pour reposer un peu,
d'un seul coup.
Avec mes yeux rouges et tout. Je dois voir un ophtalmo demain, d'ailleurs. Ça commence à bien faire. Mais oui, du coup, ça me repose un peu.
C'est vrai qu'il a l'air d'un lapin, hein.
Ça fait peut-être un peu plus sérieux, j'en sais rien.
Il avait pas les grandes oreilles blanches, mais à part ça, c'est vrai, ça. Non, mais bon voilà, c'est marrant.
Ouais. Oui, je trouve ça assez marrant.
J'avais pas l'habitude de voir avec des lunettes. Je suis tout, Vous avez décidé d'avoir l'air intello, ou vous voulez ressembler à...
Mais cela dit, vous savez, moi j'ai eu des lunettes toute ma vie. Oui, j'ai commencé à mettre des lentilles en seconde ou en première.
Des lentilles d'habitude.
J'ai des lentilles d'habitude.
J'ai des lunettes, mais je les perds.
J'attends impatiemment de pouvoir faire l'opération là sur la myopie, parce que je suis myope comme c'est pas permis.
Ah oui, sans blague.
Oui, tout à fait. J'ai un taux de, enfin un chiffre de correction sur la myopie qui est digne d'une taupe aveugle. Après cet aparté, voilà en gros ce que je voulais apporter un peu comme élément sur cette élection. Il y aura d'autres trucs à suivre. Selon vous, est-ce que Trump va gagner?
Pour moi, si vous voulez, c'est pas la bonne question, si je peux me permettre. Pour moi, le vrai problème des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de tout ce que vous voulez, de l'Allemagne, c'est qu'aujourd'hui, nous avons comme je l'ai expliqué longuement à plusieurs reprises, nous avons une classe qui a pris le pouvoir, qui n'a plus rien à voir avec la démocratie, qui sont qui est une mafia, quoi. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, pour moi, c'est pas est-ce que Trump va gagner, c'est est-ce que les autres vont perdre. Parce que si les autres ne perdent pas, là, on est vraiment parti, on est mal parti, là. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette espèce de classe corrompue, la CIA, le FBI, etc. Il y a les affaires qui viennent de sortir de... Vous savez que Twitter, il y avait ce qu'on appelle les Twitter Files, c'est-à-dire les dossiers qu'il y avait chez Twitter, que un certain nombre de journalistes traitent petit à petit. Et ils viennent de sortir les Twitter Files sur la tentative de prise de pouvoir de la CIA, qui n'a pas le droit d'intervenir dans la politique américaine, je vous le rappelle, et du FBI, de tentative de prise de contrôle des médias par ces deux organismes. C'est sorti il y a 3 jours, et c'est effrayant. Donc vous avez vraiment des criminels, qui sont au pouvoir aux États-Unis et qui ont comme candidat évident Biden. Donc pour moi, la question, c'est pas est-ce que Trump va gagner, c'est est-ce que ces gars-là vont perdre. Est-ce qu'ensuite, on va retrouver le département de la justice américain qui va pouvoir mettre tous ces gars-là en taule? Parce que si Biden gagne, le département de la justice serait dans leurs mains et on n'a pas une chance. Donc pour moi, que Trump gagne, je m'en contrefous. Pour moi, il mettrait un bout de bois, ça me ferait le même effet, si vous voulez. L'essentiel, c'est que ces gars-là perdent. Je suis pas pro-Trump, je suis anti le complexe militaro-industriel pharmaceutique là qui gère les États-Unis. Je suis anti la corruption à Washington, et à Paris, et partout. Donc l'essentiel, c'est que les peuples se débarrassent de ces crapules. Madame von der Leyen est une éminente représentante aussi. Donc je veux dire, c'est plus une question de la personne, c'est une question de renouveau démocratique où on est foutu.
Tout à fait. Effectivement, comme dans tout un tas d'autres pays occidentaux, le gros problème, je pense, des États-Unis, c'est un problème d'approbation et de confiance envers son propre État et son propre gouvernement. Ça me fait penser à un moment de l'histoire politique américaine aussi qui s'est déroulé, il me semble que c'était sous Andrew Jackson, où Andrew Jackson était une sorte de peut-être le premier président populiste américain
qui avait c'était beaucoup, l'ancêtre de Trump
qui avait voulu beaucoup lutter contre la corruption et qui du coup a été énormément combattu par l'état profond de l'époque. Il a d'ailleurs une première fois, il aurait dû être élu et tout a été fait pour qu'il ne le soit pas. Au final, il a réussi à accéder à la Maison Blanche. Il a eu tout un programme anti-corruption, etc. Et il a renouvelé, effectivement, même peut-être il a instauré une sorte de confiance entre le peuple américain et son gouvernement.
Et un autre similaire, ça avait été Theodore Roosevelt aussi, ouais, qui a été, qu'ensuite, on n'a pas, son parti n'a pas sélectionné alors qu'il était président. Ils en ont essayé d'en mettre un autre. Ensuite, il a essayé d'être, pour le deuxième mandat, il a été, il a fait ça en troisième candidat, mais il n'a, ouais, pas été élu. Donc, encore une fois, si vous voulez, c'est pas la première fois que l'État américain est capturé par des gens pas convenables, mais ça a rarement atteint un niveau aussi
important.
Aussi, ouais, important. Et surtout, encore une fois, l'État américain, dans les années 1860-1900, il devait faire 10% du PIB, donc c'était embêtant. Et puis c'était un État régional, c'était, je veux dire, c'était pas la puissance mondiale que c'est aujourd'hui. Tandis, ouais, qu'aujourd'hui, l'État américain, c'est celui qui décide de la paix et de la guerre dans le monde entier. Donc c'est pas une blague s'il est pris par les marchands d'armes, quoi. C'est pas,
ouais, bien sûr,
c'est plus pareil, quoi.
Ouais. C'est pas pareil qu'à l'époque où effectivement on peut avoir du personnel politique qui pioche dans les caisses. Effectivement, c'est pas correct du tout, mais derrière ça n'a pas une influence aussi énorme que ce que c'est aujourd'hui.
Quoi. Par exemple, ils viennent de donner, l'État américain a donné 60 milliards de dollars à l'Ukraine, ça fait pour son armement. Eh bien, ça va aller à 5 fabricants d'armes aux États-Unis, donc Lockheed, Boeing, les suspects habituels, et qui vont leur vendre à l'Ukraine des armements à 5 fois le prix normal. Donc ça naît, donc les Ukrainiens vont avoir pour une contre-valeur d'à peu près 10 milliards d'armes, et il y a 30 ou 40 milliards qui vont apparaître dans les bénéfices des sociétés en question, qui, ouais, sont les gars qui nomment les gars à Washington.
Ouais.
Ben, si vous voulez, ça c'est du vol à la tire, quoi. Je veux, ouais, dire, ces gars-là, on devrait les mettre, si on était dans une démocratie normale, on les mettrait contre le mur et on appliquerait le châtiment le plus sévère, quoi.
Ouais, d'ailleurs, bon, je fais un petit aparté là-dessus, mais on peut officialiser l'ouverture de l'Université de l'Épargne. Et tout à l'heure, quand on va faire un tournage sur effectivement notre première émission d'actualité financière, je voudrais parler de ça, effectivement, du fait que le personnel politique américain a des profits absolument dingues sur leur portefeuille personnel.
Mais c'est absolument monstrueux, ça.
Voilà, parce notamment que... quand ça, la présidente...
celle qui était la chef de... Nancy Pelosi.
Nancy Pelosi, qui a fait un profit de 65% sur l'année 2023, donc qui a fait 4 fois mieux que
le S&P 500. Et qui est payé 190 000 dollars par an, ce qui est le truc normal pour un représentant, et qui a, l'espace de 40 ans au Congrès des États-Unis, a constitué une fortune de 220 millions de dollars.
Oui, c'est juste dingue. Ouais.
Donc, comment... je veux dire, moi, je suis dans les marchés financiers... passer de 190 000 dollars par an à 220 millions de fortune,
c'est simple. En 2023, elle a fait, du coup, 7 fois mieux que Warren Buffett.
Ouais.
Voilà. C'est vous dire à quel point c'est une investisseuse de génie.
C'est une investisseuse de la façon, c'est donc elle va dire, on va permettre ce médicament, et elle achète le fabricant la veille, quoi.
Voilà, exactement.
Et en fait, ils n'achètent même pas, d'ailleurs, son mari, ils n'achètent pas le médicament. Ils achètent des options sur le titre.
Ouais.
Et donc, vous savez, quand vous achetez une option, vous mettez un petit peu de pognon, puis poum, si quand vous passez, vous pouvez faire 10 fois, 100 fois votre mise. Ouais. Donc, ils achètent même pas le titre, ils achètent une option d'achat sur le titre,
ouais,
ce qui est doublement interdit dans la législation américaine. Mais quand ils ont fait la réforme de la sécurité sociale, les parlementaires américains, ils l'ont, qui était soi-disant ce qui allait changer, ils l'ont appliqué à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Parce qu'eux, ils avaient un bien meilleur système. Donc, si vous voulez, fallait pas déconner, quoi.
Ouais.
Donc, encore une fois, on retrouve ce truc. Faites ce que je fais, mais faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais.
Ouais, quoi,
parce qu'eux,
ouais,
ils se servent, mais alors... Et républicains ou démocrates, ça peut être pareil.
Oui, oui, tout à fait. Même si, pour le coup, forcément, comme les démocrates sont globalement au pouvoir, c'est les représentants démocrates qui ont en moyenne un meilleur score sur leur portefeuille. Mais effectivement, les deux font très bien. Ils font mieux que le S&P 500 en moyenne. Enfin, voilà. Donc oui, on va devoir, si Trump arrive à la Maison Blanche, il va falloir effectivement nettoyer pour de bon l'État profond.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'est en train de faire à un certain degré, comment ça s'appelle, Nayib Bukele au Salvador. Il est en train de faire toute une enquête anticorruption sur tout le personnel politique du pays. Et à mon avis, ça va ne faire qu'augmenter sa cote de popularité parce que les gens apprécient la démocratie.
Et à mon avis, Milei, là, il est bien parti aussi. Ouais. Argentine.
Ah oui,
il est en train de faire il a dit du mal du premier ministre espagnol, non pas du premier ministre espagnol sans le nommer, mais de sa femme,
ouais,
qui s'était fait prendre les mains dans la pot de confiture, dans les pots de confiture là. Et donc le premier ministre espagnol a réfléchi 4 ou 5 jours avant de savoir s'il devait démissionner ou pas, mais en fait
Donc, pour passer ensuite au second sujet, on va du coup être assez concis là-dessus. Il y a les élections européennes qui arrivent, donc le 9 juin, le dimanche 9 juin, on va voter pour ceux qui veulent aller voter. Alors les débats se multiplient, je regarde pas tout parce que ça prendrait un temps fou. Les sondages commencent à s'ajuster un peu, le RN est donné à plus de 30%, jusqu'à 34% dans certains sondages comme le Odoxa qui est sorti ce matin là quand on fait le tournage. Renaissance fait plutôt de la brasse coulée aux alentours des 16%, parfois ils sont même donnés bien en dessous. Le Parti Socialiste de Glucksmann surfe autour des 14. Ensuite, on a la France Insoumise autour des 7, Écolo autour des 6, les Républicains autour des 7, Reconquête quelque part entre 4 et 7% aussi. Et puis après, en dessous, on a le PCF, le NPA, le Parti Animaliste, et puis les listes de Philippot, Asselineau, etc. Et puis toutes les autres listes qui n'ont pas vraiment d'importance. Est-ce que vous pensez que ces sondages vont être proches de la réalité ou on va avoir des grosses surprises?
Ça dépend. Vous savez, les gens n'allaient pas voter.
Ouais.
Donc ça dépend cette fois-ci, est-ce qu'ils vont aller voter? Parce que pour une fois, ils doivent aller voter. Ouais. Hein, c'est tout à fait évident.
Apparemment, il semblerait qu'ils vont voter un peu plus que d'habitude, mais ça ne va pas être un raz-de-marée non plus.
Ça, on n'en sait rien non plus. Mais ça, c'est ce que disent les gens, on verra.
Ouais.
Mais... parce que ça peut changer. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est tout simple. C'est une vieille idée que j'ai développée ici depuis un certain temps. Ça fait 10 ans que j'en parle, j'imagine, maintenant. Vous avez les âmes des arbres et les âmes des bateaux. Vous savez, vous m'avez entendu développer cette idée 10 fois. C'est en Polynésie, les âmes des arbres, ils restent dans leur île, là, ils restent sur le cocotier, ils attendent que la noix de coco tombe, ils sont très contents, ils bougent pas. Et puis les âmes des bateaux, ils coupent l'arbre, et puis ils en font une pirogue, ils vont voir si l'île d'à côté est pas mieux. Donc, les âmes des arbres, c'est les souverainistes, mettons, et puis les hommes des bateaux, c'est les mondialistes. Donc, pour moi, cette élection, c'est celle des mondialistes contre les souverainistes.
Mmh.
Dans tous les pays d'Europe. L'Allemagne, l'Angleterre, partout. Donc, pour une fois, les souverainistes ont la possibilité d'avoir de l'impact. Donc, vous savez qu'on a été gouverné par une espèce de mort entre mots complètement corrompue, dont Mme van der Leyen est le parfait exemple, avec les chrétiens démocrates et les sociodémocrates, qui sont d'ailleurs ni chrétiens ni sociaux, mais ni démocrates d'ailleurs, mais qui sont près de l'assiette au beurre, comme les radicaux autrefois, quoi. Comme les radis. Mais si j'ai quelque chose à dire aux gens, et s'ils prouvent que ce que j'ai à dire est peut-être intéressant pour eux, j'en sais rien. Je sais pas pour qui vous allez voter, mais je sais pour qui vous ne devez pas voter. Vous ne devez pas voter pour les socialistes. Monsieur Glucksmann est une ordure considérable. J'ai suivi tout ce qu'il a fait en Géorgie quand il y était il y a quelques années. Il est tout à fait compétent pour être dans un truc corrompu, quoi. Vous devez pas voter pour le parti du président, ça va sans dire. Vous pouvez pas voter pour les partisans de Monsieur Bayrou, je sais pas qui ils sont, mais il doit y en avoir un ou deux qui traînent dans une cabine téléphonique quelque part. Ouais,
ils sont avec Renaissance.
Hein, ils sont avec Renaissance.
Parce que s'ils commencent à se séparer maintenant, ils sont vraiment pas rendus.
Ils sont pas rendus. Donc, je sais pas pour qui vous allez voter, mais vous devez voter pour des gens qui veulent sortir de l'Europe, rendre sa souveraineté à la France, donc pour des souverainistes et des vrais, pas des faux souverainistes. Et dans la catégorie les faux souverainistes, les meilleurs, c'est ce qu'a été le RPR. C'est ceux qui ont le plus trahi, il n'y a pas le moindre doute. Donc voter pour M. Bellamy, c'est nous prendre pour des andouilles, parce que M. Bellamy, il a voté tous les textes avant de souveraineté, hein, quand il y était. Donc il est charmant, il est bien élevé, il a une tête d'honnête homme, mais ça, c'est pas de sa faute. Hein.
C'est pour ça qu'ils l'ont mis.
Donc c'est comme dans Lucky Luke, où il y avait un type qui avait une tête d'honnête homme, donc c'était toujours lui qui en envoyait. Faire les saloperies, quoi. Donc, je n'ai rien contre M. Bellamy, hein, je ne le connais pas d'ailleurs, et je ne doute pas qu'il soit parfait, mais il a voté tous les textes qu'il ne fallait pas voter. Donc, je ne sais pas pour qui vous allez voter, mais en tout cas, allez voter. Et surtout, pour moi, le truc le plus important dans ces élections, c'est imaginer que vraiment il y ait un vrai raz-de-marée en partie. Je ne pense pas que ça puisse avoir un gros effet, parce que l'exaspération dans le reste de l'Europe n'est pas aussi élevée qu'en France. Ouais. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir Macron, donc ils ont des types qui étaient un peu moins clivants. Et pour moi, le truc important, c'est de se dire, bon, mais si par hasard en France, le parti au pouvoir tombe en dessous de 13 ou 14%, ce qui ne s'est jamais produit, c'est-à-dire si vraiment il est ratatiné, à ce moment-là, les Républicains, les peu de gaullistes qui restent, auront peut-être le courage de voter une motion de censure à la Chambre.
Oui, effectivement.
C'est à peu près tout ce qu'on peut espérer. C'est-à-dire que, donc, vous votez, il faut que vous votiez, c'est pas grave que vous votiez pour des gens qui seront pas élus, mais il faut que vous votiez pour que le parti au pouvoir fasse moins de 12 ou 13% des voix exprimées. Et après ça, ben même si vous votez pour quelqu'un qui n'est pas élu, c'est pas grave. Mais il faut que ça se passe de façon à ce qu'il n'ait plus aucune légitimité. Et peut-être à ce moment-là, on retrouvera des gens dans le Parti Républicain qui auront le courage, qui trouveront en eux-mêmes la ressource pour devenir vaguement gaulliste et virer le gars qui n'est pas légitime.
Ouais. Effectivement.
Donc on a une occasion inouïe de se débarrasser de... De Macron.
Ouais. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le but, en quelque sorte, de cette élection est un peu détourné pour ce qui est de la France, puisqu'en fait, le but initial, bah, c'est juste d'envoyer des gars au Parlement européen ensuite ce que ça fait. Mais en France, d'ailleurs, Jordan Bardella a totalement surfé dessus, et je pense qu'il a eu raison au final, parce que les Français semblent avoir globalement la même lecture de l'élection que lui. C'est-à-dire que pour lui, c'est une sorte de référendum pour ou contre Macron.
Voilà.
Et effectivement, si le RN fait plus de deux fois plus que le résultat de Renaissance, ça la fout vraiment mal.
Non, mais surtout, il faut que Renaissance soit perçue comme...
Totalement illégitime,
comme
de manière indiscutable.
Totalement illégitime, mais parce que c'est pas les gars qui vont voter RN qu'il faut, c'est pas... Ce qu'il faut, c'est les Ciotti, c'est tous ces gars-là qui ont eu l'occasion de se débarrasser avec lui, ils ont pas voté les motions de censure.
Ouais.
Donc, il faut, c'est eux qui doivent prendre peur, parce que pour l'instant, ils n'osent pas bouger, parce qu'ils disent, de toute façon, je serai battu la prochaine fois.
Ouais, tout à fait.
Donc ils disent, je vais rester encore, mais... S'il leur reste un tantinet d'honneur, ces gens-là pourraient peut-être décider de voter, même s'ils sont battus la prochaine fois, quoi.
Oui,
mais s'ils votent la censure, ils sont sans doute pas battus.
Oui. Et puis, bon, de toute façon, globalement, leur avenir, c'est pas de faire 5 ou 6% pour toute la vie. Au bout d'un moment, ils devront choisir. Soit ils sont Macron compatibles. Il y a encore un certain nombre d'entre eux qui le sont. La preuve, il y a quelques mois encore, Rachida Dati est devenue une ministre macroniste. Bon.
C'était peut-être pour essayer d'arrêter d'avoir des ennuis avec le ministère de la Justice. Hein.
Peut-être. Et puis peut-être pour avoir une place déjà faite pour la mairie de Paris la prochaine. C'est sûrement ça.
Elle était quand même l'objet d'un certain nombre de poursuites qui étaient un peu gênantes. Quoi.
Ouais. Et comment dire, d'autres... franchement ont l'épaisseur d'un papier de cigarette entre ce qu'ils pensent et ce que peut-être Zemmour pense ou ce que Marine Le Pen, Jordan Bardella pensent. Donc ce parti est vraiment...
La question c'est, il faut que les hommes des arbres, qui sont largement majoritaires, fassent comprendre qu'en ce qui concerne la gestion de leur île, ils n'ont pas besoin qu'elle soit gérée de l'extérieur. Si j'ose dire, si la Nouvelle-Calédonie décide d'être gérée de l'intérieur, ben on aura peut-être le droit en France d'être gérée de l'intérieur plutôt que d'être gérée de l'extérieur. Quoi.
Ouais. Ça, on a bien vu que la Nouvelle-Calédonie, enfin, en tout cas, les journalistes de gauche nous ont bien expliqué que la Nouvelle-Calédonie, ils avaient le droit d'être gérés de l'intérieur. Il y a quand même un journaliste qui s'appelle Usul, qui est totalement d'extrême gauche, mélenchoniste et tout, qui a expliqué qu'il devrait y avoir une remigration sur la base raciale. en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'en gros tous les blancs, quelle que soit la date où ils sont arrivés, quelle que soit la date où leurs parents, leurs ancêtres sont arrivés sur cette île, eh bien ils devraient tous revenir en France, voilà, selon un critère racial. Donc c'est quand même étonnant que des gens comme ça nous explique.
J'ai l'impression qu'il y a des gens dans le personnel politique en France, dont ce journaliste dit le plus grand mal, mm-hmm. qui pensent la même chose.
Oui.
Mais pour la France.
Oui, pour la France. Oui.
Donc,
et encore, il y a quand même relativement peu qui pensent la chose en France sur le statut racial, quand même. Mm-hmm. C'est quand même, ça existe, mais c'est quand même assez rare. Enfin voilà, c'est globalement ce que je voulais évoquer pour cette semaine. Et puis
l'idée, encore une fois, c'est aller voter. On s'en fout pour qui vous votez, mais votez pour que la souveraineté revienne en France.
Voilà.
Et c'est pas grave si celui pour qui vous votez n'est pas élu. Faites-lui une petite valeur, votez pour lui. C'est pas grave s'il n'est pas élu, parce que ce qui comptera, c'est le nombre de gens. On fera le somme des souverainistes.
Mmh, effectivement.
Même s'il n'en a aucun élu, ça n'a aucune importance. Le vote utile est une imbécilité.
Mmh.
Bah, parce que vous ne votez pas pour que des gens aillent là-bas.
Ouais.
Vous votez pour que Macron s'en aille.
Oui, oui.
Donc votez, ça n'a aucune importance.
Vous votez comme vous voulez.
Comme vous voulez.
Effectivement,
le vote utile, c'est une imbécilité.
Pour le coup, s'il y a bien un vote défouloir où il n'y a pas tellement de votes utiles, c'est l'élection européenne. Peut-être autant en profiter.
C'est l'occasion. Voilà. C'est l'occasion de vous défouler. Et pas de vous défouler, de se débarrasser de ce gars-là.
Oui. Et pas de snobisme électoral, s'il vous plaît. Allez voter si vous avez envie de voter. Ne vous moquez pas de ceux qui vont voter en leur disant voilà, vous participez à cette mascarade électorale qui sert à rien, etc. Ne pas voter, vous avez le droit de ne pas voter, mais ça ne va pas avoir d'effet derrière.
Si vous n'allez pas voter, vous n'avez pas le droit de vous plaindre.
Voilà, vous n'avez pas le droit de vous plaindre du résultat si vous n'allez pas voter. Vous avez le droit de le faire, mais voilà, derrière. Faut pas s'étonner des résultats. Donc voilà, pour ce délit d'opinion. Sur ce, là, on va se mettre à plancher encore une fois sur l'université de l'épargne. Hein.
Qu'est-ce que ça nous donne comme boulot, ce truc-là?
Oui, effectivement.
Qui a eu cette idée stupide?
Je crois que c'est vous, chef.
Non, je crois que c'est Manuel.
Oui, effectivement, c'est pas faux. Mais c'est quand même très sympa de bosser pour,
oui,
pour
moi, ça. Moi, je suis très content.
Franchement,
très content.
Moi aussi, je suis très très content. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Institut des Libertés. Encore une fois, ces émissions sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify et sur Apple Podcast. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez...
Il y a des acharnés, parce que... La personne qui s'occupe de mettre ça sur les, vous savez, Clément, qui c'est tout, il était en train de bosser sur la façon de vous accepter, de vous faire payer, etc. Et il y a un certain nombre d'entre vous qui ont trouvé où il était et comment il était en train de bosser et qui sont inscrits en avance.
Ouais.
Alors qu'il était complètement débordant, il disait, mais attendez une seconde, c'est pas ouvert et tout.
Oui.
Ça commence à arriver. Donc c'est plutôt bon signe, mais modérez votre enthousiasme. Allez.
Effectivement, oui, il y a un petit malin qui a trouvé l'URL, et il l'a partagé à je sais pas combien de personnes, et puis il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui sont... c'est un truc de dingue, ça. Bref. Bon. Ça montre à quel point il y a de l'enthousiasme là-dessus. En tout cas, ça nous motive encore plus.
On va aller faire les cours maintenant.
Voilà, exactement. On va aller faire les cours, et sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Institut Liberté.
Merci beaucoup. Encore.